Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 février 2021. Bonjour, bienvenue. Le président américain Joe Biden a pris mardi ses compatriotes à témoin en vantant les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l'économie de 1900 milliards de dollars. Face aux ravages du COVID-19, il faut aller vite, a-t-il insisté, assurant que son plan, qu'il souhaite faire adopter sans attendre un hypothétique consensus au Congrès, permettrait de créer 7 millions d'emplois cette année. Interrogé sur les progrès en cours sur la vaccination, M. Biden a prédit que 600 millions de doses seraient disponibles d'ici fin juillet, soit suffisamment pour vacciner tous les Américains contre le coronavirus. Un élu démocrate au Congrès des États-Unis a porté plainte mardi devant la justice fédérale contre l'ancien président Donald Trump, son avocat Rudy Giuliani et deux groupes d'extrême droite qu'il accuse d'avoir fomenté l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. Il s'agit de la dernière initiative en date visant à faire porter à Donald Trump la responsabilité des violences du 6 janvier qui avaient éclaté à l'issue d'un de ses discours et après des semaines d'affirmation que l'élection remportée par Joe Biden avait été truquée. Donald Trump a éreinté mardi le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, en appelant son parti à tourner le dos à ce vétéran du Congrès qui a publiquement accusé l'ex-président américain d'être responsable de l'assaut meurtrier du Capitole. Jusqu'ici très discret depuis son départ de la Maison-Blanche, le 45e président des États-Unis déclare ainsi la guerre ouverte avec ce fin stratège qui fut longtemps son allié, un divorce emblématique des divisions qui déchirent désormais les Républicains. Sur le continent, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est déclaré mardi confiant dans une victoire éclatante de son parti aux élections législatives du 6 mars, 4 mois après sa victoire à la présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition qui ne reconnaît pas sa réélection. Toutefois, après des gestes d'apaisement du pouvoir, dont la libération conditionnelle de plusieurs de leurs dirigeants interpellés, les principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire ont décidé de participer aux législatives. Deux ex-chefs de milices centrafricains ont rejeté mardi toutes les charges à leur encontre à l'ouverture de leur procès à la Cour pénale internationale CPI, qui les accuse de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Patrice Edouard Ngaïsona, ancien ministre centrafricain des Sports, et Alfred Yekatom, surnommé Rambo, sont jugés pour des crimes présumés commis en République centrafricaine lors de la guerre civile entre 2013 et 2014. Lors d'une audience de confirmation des charges en septembre 2019, un procureur de la CPI avait accusé les deux hommes d'avoir été impliqués dans une campagne de violence et de terreur contre des civils en Centrafrique. Un autre suspect centrafricain, Mahamat Saïd Abdel Kani, chef présumé de la SELECA, a été remis à la CPI par les autorités de Bangui fin janvier, également pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La première série d'audiences dans ce procès doit se tenir jusqu'à vendredi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé mardi, lors d'entretiens avec les nouvelles autorités libyennes, la nécessité d'un départ de Libye des troupes étrangères et mercenaires, a indiqué son porte-parole. Antonio Guterres a parlé de manière séparée au chef du conseil présidentiel Mohamed Al-Menfi et au premier ministre intérimaire Abdel Hamid Beba, a précisé dans un communiqué Stéphane Dujarric. Et puis un journaliste britannique qui couvrait les violences djihadistes dans le nord du Mozambique a été expulsé et banni du pays. Tom Bowker, cofondateur du site d'information anglophone mozambicain Zitamar News, s'était vu retirer son accréditation locale par les autorités mozambicaines le 29 janvier, une mesure qu'il avait alors dénoncée comme politiquement motivée. Selon le gouvernement mozambicain, M. Bowker, ancien correspondant de l'agence Bloomberg dans le pays, n'a pas été en mesure de prouver l'existence légale de Zitamar News, son journal en ligne, rédigé entre Londres et Maputo. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, Centrafrique, le chef de l'ONU recommande une augmentation de près de 3700 casques bleus. Au Sénégal, plusieurs proches de l'opposant Ousmane Sonko mis aux arrêts. Lui-même est accusé de viol. Les températures au plus bas aux États-Unis avec de nombreux dégâts collatéraux. Jean-Roger Billon, la suite du journal dans un instant. La suite de nos informations ce mercredi 17 février 2021. Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande de relever le niveau des troupes de la MINUSCA de près de 3700 casques bleus, une augmentation qui permettrait, selon lui, de contrôler et d'inverser l'instabilité actuelle tout en encourageant le respect de l'accord de paix. Mouamadou Mfa nous en dit plus.
Cette recommandation est contenue dans un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres propose un renforcement de la MINUSCA de 2750 militaires et de 940 policiers, ce qui porterait le total de cette mission à 14 400 soldats et 3 020 policiers. Ce renforcement devrait être échelonné et fondé sur un examen régulier de l'évolution du contexte politique et sécuritaire, ajoute M. Guterres. Selon lui, ce renforcement permettrait de contrôler et d'inverser l'instabilité actuelle tout en encourageant le respect de l'accord politique de paix. À court et moyen terme, avoir un bataillon pour sécuriser la principale route d'approvisionnement vers Bangui. À plus long terme, il devrait inclure des moyens aériens et des drones pour améliorer les opérations et la capacité de reconnaissance et de renseignement de la MINUSCA. Ces recommandations feront l'objet d'un débat le 24 février lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité sur la Centrafrique.
Au Sénégal, les choses se compliquent autour de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par une masseuse d'un institut de beauté de Dakar. En attendant que l'Assemblée nationale décide de la lever ou non de son immunité parlementaire, plusieurs de ses proches ont été arrêtés pour diverses raisons. Le parti de l'opposant parle de complot et de tentative d'intimidation. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Abbas Fall, le coordonnateur à Dakar du parti PASTEF, et Patricia Mariam Gandoul, l'épouse de l'administrateur général du même parti, sont gardés à vue à la division des investigations criminelles de la police nationale. D'après les premières informations, la dame a été arrêtée suite à une plainte de Mahmoud Saleh, ministre d'État et directeur de cabinet du président de la République. Ce dernier aurait reçu des propos injurieux et des menaces de mort depuis une puce liée à Patricia Mariam Gandoul. Des accusations balayées par le camp de l'opposant Ousmane Sonko qui accuse l'État d'orchestrer une tentative d'intimidation contre des responsables militants et sympathisants du parti PASTEF à travers une vague d'interpellations injustifiées. Hormis ces récentes arrestations, une vingtaine de partisans d'Ousmane Sonko a été placée sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, organisation d'un mouvement insurrectionnel, violence et voie de fait à agents de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, dégradation de biens appartenant à l'État et incendie criminel. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Des chutes de neige dans le sud des États-Unis, des températures polaires et des millions d'Américains sans électricité. La vague de froid qui a déjà fait 10 morts se poursuit. 3 personnes ont par ailleurs été tuées dans le passage d'une tornade en Caroline du Nord. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Le Texas est plutôt habitué à des températures plus clémentes. Mais hier, c'était moins 12 degrés Celsius à Austin, la capitale. Face à la forte utilisation des appareils de chauffage, les compagnies d'électricité enchaînent les coupures partielles depuis ce week-end dans ce grand État du Sud. Le président Joe Biden a signé dimanche une déclaration d'urgence permettant de fournir une aide fédérale au Texas. Dans le Mississippi également, autre État du Sud, les routes et bâtiments sont couverts de neige et de glace, ce qui a pris au dépourvu les autorités locales qui manquent d'équipement et de chasse-neige pour dégager les routes. Un autre phénomène météorologique extrême s'est abattu lundi soir sur l'État de la Caroline du Nord. Une tornade a tué au moins 3 personnes et fait une dizaine de blessés. Une cinquantaine d'habitations ont été endommagées, des arbres arrachés et des véhicules détruits.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lydon.
Au Gabon, à cause de la pandémie, l'économie a perdu plus de 12 000 emplois en 2020. Le secteur pétrolier, qui représente plus de 80% des revenus, est l'un des secteurs les plus touchés, ce qui a fait chuter le taux de croissance, qui est passé de près de 5% en 2019 à 1,5%. L'économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole, qui représente 39% du produit intérieur brut, 49% des recettes budgétaires et 85% des des recettes d'exportation. Au Cameroun, Atlantic Group annonce la construction d'une cimenterie, la sixième du pays. Les travaux de construction devraient débuter dans les prochains mois. Le PDG d'Atlantic Group, l'Ivoirien Kone Dozongi, entend construire dans la localité de Kribi une usine d'une capacité annuelle d'1 million de tonnes de ciment pour un coût estimé à 60 milliards de francs CFA. Et selon Financial Afrique, ce projet industriel devrait générer plus de 2000 emplois directs et indirect. Le prix du Bitcoin a franchi le seuil de 50 000 dollars mardi, une première pour la crypto-monnaie qui ne cesse de battre des records, galvanisé par l'intérêt de grandes banques et d'entreprises comme Tesla. Depuis le début d'année, le Bitcoin a connu une progression de près de 75%.
Et maintenant, la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Deuxième sortie en match de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ce soir. Battu en ouverture dimanche par le Cameroun 1-0, le pays hôte, la Mauritanie, tentera de se relancer face au Mozambique. À suivre aussi le duel entre les deux leaders du groupe Cameroun-Ouganda. Hier, dans le groupe D, le Ghana a corrigé la Tanzanie 4-0 pour prendre la tête du classement devant le Maroc, vainqueur de la Gambie 1-0. Que de matchs nuls dans le groupe B lundi, 0-0 entre le Burkina Faso et la Tunisie et 1-1 entre la Namibie et la République centrafricaine. En Europe, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, tous buteurs, ont permis à Liverpool de s'ouvrir la voie des quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 2-0 contre Leipzig dans un match aller délocalisé à Budapest en raison des règlements sanitaires allemands. Dans l'autre match de ses huitièmes de finale aller, pour sa première au Camp Nou, Kylian Mbappé a remporté son bras de fer contre la superstar argentine Lionel Messi avec un triplé et a permis au Paris Saint-Germain de repartir de Barcelone avec une victoire précieuse 4-1. Les huitièmes de finale aller se poursuivent ce soir. Deux matchs au programme face au FC Porto de l'attaquant malien Moussa Mariga. La Juventus de Cristiano Ronaldo fera sans son défenseur central Leonardo Bonucci, blessé, et son milieu argentin Paulo Dybala en phase de reprise. Ces deux forfaits s'ajoutent à celui du Colombien Juan Cuadrado que le club a annoncé lundi absent pour au moins 10 jours après une blessure à la cuisse droite. L'autre huitième de finale aller opposera le FC Séville à Dortmund. Ici, aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de basketball a annoncé le report de 3 nouveaux matchs de San Antonio, 4 de ses joueurs ayant été testés positifs au coronavirus, ainsi que 2 autres de Charlotte, dernier adversaire en date des Spurs. Conséquence, les Spurs n'ont pas suffisamment de joueurs disponibles, alors qu'un minimum de 8 est requis. San Antonio, 6e à l'ouest, dont le match d'hier à Détroit avait été reporté lundi, ne recevra pas Cleveland ce soir et n'ira ni à New York samedi ni à Indiana lundi prochain. Son dernier match a eu lieu dimanche à Charlotte et s'est soldé par une victoire 122-110. La Ligue a indiqué que l'équipe des Hornets fait aussi l'objet d'une enquête de traçabilité, que ses 2 prochains matchs contre Chicago ce soir et Denver vendredi sont également reportés.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Rideau hier sur le sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Même si les questions politiques et la présence des États dans les zones touchées par les activités djihadistes ont été évoquées. L'option militaire reste prédominante. La France a exclu dans l'immédiat une réduction de ses troupes au Sahel, alors que le Tchad annonce l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières. Pour une analyse, Abdourahman Dia, adjoint à Abidjan, l'écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, Sédic Abba.
D'abord, il y a, je pense, une volonté de consolider les acquis de la nouvelle stratégie qui a été lancée depuis le sommet de Pau en janvier 2020. Une stratégie qui a permis quand même de reprendre un peu le dessus sur les groupes djihadistes, principalement dans la zone des trois frontières, à savoir la zone qui est commune au Burkina Faso, au Niger et au Mali. On remarque depuis le sommet de Pau et la volonté de concentrer les forces sur cet espace et sur l'État islamique au Grand Sahara, des résultats ont été obtenus.
Effectivement, mais le sommet devait également aborder la question politique et diplomatique dans cette crise dans le Sahel, mais ça se voit que l'option militaire est toujours bien présente.
Oui, mais le sommet a tout de même expliqué que on a besoin de cette composante sécuritaire et militaire, mais le sommet a beaucoup insisté sur la nécessité du redéploiement de l'État, notamment dans les zones les plus fragiles. Parce que le constat a été fait que les groupes djihadistes ont profité beaucoup de l'absence des États dans ces différentes zones. Et le sommet a beaucoup insisté là-dessus et a insisté aussi sur la nécessité d'avoir des projets de développement. Parce que la paix ne sera durable que si on met en place des projets de développement, comme a dit un peu un officier militaire qui vient de quitter le service. On tue 10 et on voit 20 qui sont 20 nouveaux qui rejoignent le groupe.
Alors, dans tout cela, est-ce que, selon vous, il y a un déphasage entre la réalité telle que vue par les opinions publiques dans des pays comme le Mali, par exemple, qui semble demander le départ des troupes françaises, et la réalité des politiques?
Bon, quand on prend l'exemple du Mali, qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un basculement de l'opinion entre Serval et Barkhane. Et au moment de Serval, tout le monde a vu l'accueil triomphal qui a été fait au président français, qui a été fait aux troupes françaises. Beaucoup de jeunes ont pris le nom du premier soldat français qui est tombé. Il y a eu une symbiose. Mais à partir de Barkhane, parce que Barkhane était une mission beaucoup moins évidente, beaucoup moins claire. Et ce qui était reproché à la fois au Mali, parce qu'on parle du Mali parce que c'était le plus important, mais au Niger aussi, il y a eu la contestation de la présence française. C'était au moment où on ne voyait pas, dans l'opinion publique, on ne voyait pas la valeur ajoutée de la présence française. Et les Français sont là, on continue à tuer des gens à Chinaboder, on continue à tuer des gens, des militaires au centre du Mali. Et les opinions publiques se sont mises à penser que cette présence n'avait aucune utilité. Mais du côté des pouvoirs publics, on était beaucoup moins engagé sur le départ des Français, et même si aujourd'hui on voit qu'il y a une différence d'appréciation entre la France et le Mali, et la France et le Burkina aussi, sur la nécessité ou non de dialoguer avec les groupes djihadistes.
C'était Sédic Abba, joint à Abidjan.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, un sommet du G5 Sahel se tient à N'Djamena avec la participation de la France engagée depuis 8 ans aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les groupes djihadistes continuent de sévir dans la zone, les populations civiles payant le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont perdu la vie et 2 millions ont été déplacés. Au-delà de l'aspect militaire, le sommet de N'Djamena cherche aussi des solutions politiques et diplomatiques à la crise au Sahel. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
En République centrafricaine, les habitants de la capitale poussent un ouf de soulagement. Une vingtaine de camions de transport de marchandises est entrée mardi à Bangui. Il s'agit du premier convoi sécurisé par l'armée centrafricaine et ses alliés depuis la frontière camerounaise. À Bangui pour VOA Afrique, les précisions de Freeman Sipila.
Des centaines de Banguissois sont sortis au bord de la route pour saluer avec des cris de joie le passage de ces camions escortés par des soldats centrafricains et russes. « Il s'agit en effet du premier convoi en provenance du Cameroun depuis la libération du principal axe de ravitaillement du pays par l'armée nationale et ses alliés. Le colonel Modoua de l'armée centrafricaine est le chef de mission de l'escorte.
Les forces négatives ont tenté d'asphyxier la ville de Bangui et avec la nouvelle stratégie que nous avons essayé de mettre en place, on a vu qu'ils sont aussi vulnérables qu'un papier qu'on peut déchirer et qui a fait que justement nous avons pris notre courage pour convoyer ce cortège jusqu'au niveau de Bangui ici. Et là, sur le premier convoi, d'ici peu, tout va rentrer dans l'ordre et le corridor sera vraiment actif.
L'arrivée de ces camions rassure dans la capitale et ravive l'espoir de la disponibilité de certains produits alimentaires sur le marché.
Nous remercions le bon Dieu de nous avoir fait cette grâce. L'arrivée de ces camions est le signe de la fin de notre souffrance. Merci aux militaires centrafricains, merci aux soldats russes et rwandais.
La satisfaction est aussi dans le camp des conducteurs de ces camions bloqués durant presque 2 mois à la frontière avec le Cameroun.
Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous qu'on a fait 2 mois garés sur place et cette fois-ci, on a décidé de venir, on a demandé les volontaires, on a décidé de venir ravitailler nos parents qui meurent de faim ici. Et puis, au début, on a peur d'arriver à un certain moment, donc on a enlevé le père. Dès qu'on a pris la route et puis le père est parti, on est arrivé sans et sauf, il n'y a rien qu'on a trouvé en route comme obstacle.
Pour le gouvernement, ce premier convoi qui précède de nombreux autres déjà en route est une réussite et un signal fort. Arnaud Djoubaï Abazène, ministre des Transports.
Vents et marées, promesses de promesses, aujourd'hui c'est chose faite. Il n'y a plus de doute. Le gouvernement a su mettre la main avec la collaboration, l'appui de nos amis de la Russie, de nos amis de Rwanda, les FACA, les paramilitaires, les centrafricains dans sa globalité. Tout le monde s'est élevé comme un seul homme pour dire non. Non, il faut faire en sorte que la République africaine soit approvisionnée. Voilà chose faite. Le convoi est arrivé. Les malfrats, les terroristes ont tenté de barrer la route. Ils ont été pulvérisés. Donc, il n'y a plus de doute.
L'axe Bangui-Garoua-Boulaye a été entièrement libéré le 11 février dernier par les forces armées centrafricaines et leurs alliés après un blocus de près de 2 mois imposé par les rebelles de la CPC, une coalition des groupes armés qui s'opposent au pouvoir de Bangui. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Koudou Bungozi Okonjo-Iweala, l'ancienne ministre nigériane des Finances, devenue lundi la première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. La nouvelle a été bien accueillie dans son pays, le Nigeria. Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, a recueilli les réactions de quelques leaders d'opinion.
Pour les autorités fédérales, Okonjo-Iweala entre dans l'histoire en tant que première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Les Nigériens lui rendent hommage chacun à sa façon. Certains portent des vêtements qui ressemblent à la robe de Okonjo-Iweala, faite en Wadiji, activiste et originaire de l'État du Delta, tout comme la nouvelle patronne de l'OMC.
Elle n'est pas seulement une femme, mais une femme qui vient de l'État de Delta, mon État d'origine. Donc, je me félicite que cela arrive dans ma vie. C'est un appel aux femmes à être efficaces dans tout ce qu'elles font. Okonjo-Iweala est une femme qui a fait face à beaucoup de défis. Elle est la première femme qui est devenue ministre des Finances au Nigeria. Et elle a fait un bon travail.
Ngozi Okonjo-Iweala a précédemment été 2 fois ministre des Finances du Nigeria et a passé 25 ans à la Banque mondiale. Au début de ce mois, la nouvelle administration du président américain Joe Biden est revenue sur la décision de l'ancien président Donald Trump de s'opposer à l'élection de la Nigériane à ses postes et a exprimé son soutien à Okonjo-Iweala. Kamilu Sanifage de la Faculté des sciences politiques de l'Université de Kano estime que l'arrivée de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC est une reconnaissance de l'Afrique vu la politique qui a précédé son élection.
Sa position va permettre à l'Afrique et le Nigeria de trouver une place dans le monde étant la patronne de cette institution. Ensuite, je pense que sa position va aider à mettre les problèmes de l'Afrique et du Nigeria sur l'agenda de l'OMC.
on the agenda of WTO.
Elle a déclaré dans un communiqué que sa première priorité serait de s'attaquer rapidement aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19 et de mettre en œuvre des réponses politiques nécessaires pour relancer l'économie mondiale. La question qui fait débat ici est de savoir quelle influence la nouvelle patronne de l'OMC pourrait avoir sur les grands dossiers de l'organisation. La réponse de l'économiste nigérien Dr Odilem Ngwebara.
Elle est juste là pour diriger les affaires journalières de l'OMC. Et donc, s'il doit y avoir un conflit entre les membres, le bureau sera chargé de résoudre la crise. À part cela, je ne pense pas qu'elle peut influencer les politiques de l'organe, et surtout lorsque cela implique des puissances majeures, les États-Unis et la Chine.
L'OMC s'occupe des règles du commerce entre les nations et intervient dans les disputes entre les États sur des questions de droits commerciaux. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les campagnes de vaccination de masse contre le COVID-19 sont en cours. Lentement, mais sûrement, des millions de personnes ont déjà été vaccinées. Mais que se passe-t-il après qu'on a reçu les deux doses de vaccin contre le COVID-19? Lesia Bakaletz de la VOA examine à quel point la vie pourrait changer ou pas du tout. Le récit est de Mouhamadou Mfa.
Vous en avez peut-être fini avec le vaccin contre le coronavirus, mais cela ne signifie pas que vous pouvez renoncer aux mesures barrières comme le port du masque facial et la distanciation sociale. Toutes ces précautions doivent rester en place, selon Tamar Sivasilian, psychothérapeute.
Je travaille dans un hôpital de réhabilitation physique, donc je traite beaucoup de patients post-Covid qui sont très faibles, toujours sous oxygène. Donc nous allons toujours porter nos masques lorsque cela est nécessaire et continuer à respecter la distanciation sociale.
Il n'est toujours pas clair si une personne vaccinée peut encore propager le virus. Michelle Heisler est directrice d'une association de médecins.
Il se peut que vous ayez encore un petit virus qui ne vous fait pas de mal, mais qui se propage si vous toussez, éternuez ou parlez près de quelqu'un.
Les médecins recommandent aux personnes vaccinées de continuer toutes les mesures de sécurité habituelles. William Schaffner, professeur de médecine préventive à l'Université Vanderbilt.
We wish to keep promoting wearing the mask.
Nous encourageons le port du masque dans la communauté en général. Nous ne pouvons pas avoir des personnes sans masque et des personnes avec des masques. Ça fait confusion. Le port du masque devait être la norme pendant un certain temps. Nous vous ferons savoir quand vous pourrez jeter le masque.
Un seul vaccin ne garantit pas non plus que quelqu'un soit immunisé contre les nouvelles souches de COVID-19. Michelle Heisler, directrice d'une association de médecins.
Il y a des preuves que les vaccins actuels sont efficaces, mais il y a également des preuves inquiétantes qu'ils ne sont peut-être pas aussi efficaces contre le variant sud-africain.
Les scientifiques ne savent pas non plus combien de temps le vaccin est efficace. William Schaffner, professeur à l'école de médecine de l'Université Vanderbilt.
Supposons que vous voulez vous réunir avec des grands-parents ou d'autres personnes. S'ils sont vaccinés et que vous êtes vacciné, vous pouvez vous réunir. Mais supposons seulement qu'ils soient vaccinés, pouvez-vous leur rendre visite? Je dirais oui, mais faites toujours attention.
Les médecins ne sont pas encore en mesure de dire avec certitude quand la vie va revenir à la normale, mais ils soulignent dans un premier temps qu'il est important de faire vacciner autant de personnes que possible.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. I think I'm crazy.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Jean-Roger Billon. Mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.